explication aujourd'hui sur ce qu'est Un et Rouve. C'est avec vous, Ruben Honigmann, pour cette séquence à la Une d'Académ. Bonjour.
Bonjour Elsa. Je vais parler en effet aujourd'hui de l'affaire qui s'est invitée dans toutes les discussions des tables de Shabbat de France, celle du et Rouve de la ville du Raincy. Rappel des faits. Moshe Levin, le grand rabbin de cette importante communauté juive, a été licencié, chose rarissime, par son employeur, le consistoire, pour, je cite, « insubordination ». En cause, le fait que ce même rabbin a fait construire un « hérouve », je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit, pour sa communauté. L'affaire a pris des proportions importantes, le grand rabbin de France, celui de Hollande et même le grand rabbin d'Israël ont pris la plume pour s'exprimer au sujet de cette histoire qui remue des sujets à la fois halachiques, sociétaux et politiques. Pour nous, à Académ, il ne s'agit évidemment pas de prendre position, nous n'en avons ni la mission ni la compétence. Nous mettons simplement en avant, en une de notre plateforme, une sélection de contenus qui permettent au grand public de mieux comprendre un certain nombre d'aspects de cette affaire. Mais il faut d'abord expliquer ce qu'est un hérouve, en commençant par le sens de ce mot. On retrouve la racine du mot hérouve, et c'est un comble, dans une expression qu'on emploie souvent pour exprimer le principe d'unité qui doit régir le peuple juif. On dit « Kol Israël arevim ze laze ». Tous ceux qui répondent du nom d'Israël sont arevim, c'est-à-dire garants, responsables, liés les uns aux autres. Hérouve est aussi à rapprocher du mot erev, c'est-à-dire le soir, ce moment entre chien et loup où se rencontrent, se mélangent et se réunissent le jour et la nuit. On comprend dès lors pourquoi on a appelé Hérouve, avec donc cette notion de réunion, un dispositif utilisé pour faciliter la pratique du Shabbat pour ceux qui le respectent. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gestes qu'il est interdit de faire pendant Shabbat, la plupart sont liés à la transformation de la matière, d'où tous les interdits liés au feu et donc à l'électricité, mais il y a un interdit qui est à part, qui est celui qui consiste à transporter un objet d'un domaine à un autre, du privé au public ou inversement. Concrètement, vous ne pouvez donc pas sortir avec votre poussette pour vous rendre à la synagogue avec vos enfants en bas âge, à moins d'avoir un hérouve. Mais en construisant un hérouve, c'est-à-dire grosso modo un fil qui entoure le domaine public, on abolit ainsi les distinctions de domaine. C'est un peu comme si tous les juifs habitaient dans une même maison. Et ainsi, on leur permet de transporter des objets durant Shabbat. Il ne s'agit pas d'une ruse pour contourner un interdit, c'est une règle rabbinique et un traité entier du Talmud porte sur ce dispositif. Et c'est une sacrée ironie de l'histoire que ce soit précisément à partir d'un instrument unificateur qu'éclate une zizanie au sein de la communauté juive, comme si le principe du hérouf s'était transformé en son contraire. Alors sur tous ces aspects d'abord concret et halachique, je vous renvoie d'abord vers une série de cours que Liliane Vanna a spécialement consacrés au hérouve disponible dans notre dossier sur Académ. Dans la plupart des communautés juives du monde, il y a un hérouve. Pourquoi pas à Paris ? J'avais reçu le grand rabbin sortant de Paris, Michel Guggenheim, sur Académ, où il a donné ses explications. Mais d'ailleurs, quel est le pouvoir concret d'un rabbin ? Un clip pédagogique du grand rabbin Alexis Blum répond à ces questions dans notre dossier. Quel est le périmètre de l'autorité rabbinique? Qui a le pouvoir de décider pour qui? Michael Ben Admon, à présent grand rabbin de Genève, y réfléchit dans l'un de ses cours. Qu'est-ce qui se passe si un rabbin ou un grand rabbin, voire un tribunal rabbinique entier, se trompe, qu'il donne une fausse règle ou une fausse loi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bernard Marouani a consacré lui aussi une série entière de 6 cours à ce sujet passionnant à partir du traité talmudique Horayot qui soulève spécifiquement ces questions. Et enfin, comme toujours, il y a aussi toute une dimension poétique, philosophique, contenue dans le Hérouve, et c'est Astrid von Busekist qui, je crois, en parlait le mieux dans un entretien avec Nicolas Veil, à retrouver également dans notre dossier en ligne et dont je vous propose d'écouter un extrait.
Donc une des spécificités de l'hérouve et qui m'a intéressée, et en ça c'est une frontière très particulière qui recèle pas mal d'enseignements me semble-t-il, c'est que pour que l'hérouve soit cachère, c'est-à-dire que pour qu'une chose tout à fait indigène à la religion juive fonctionne dans la halakha, il faut qu'il y ait approbation des autorités publiques et notamment le plus souvent des autorités municipales. Et sans cette approbation, l'hérouve ne peut pas fonctionner. Donc c'est d'emblée une frontière qui s'inscrit dans un paradigme de coopération. Ce n'est pas un mur fait de barbelés et gardé par des gardes, c'est une frontière discrète, poétique, continue et parfaitement ouverte. Dans la tradition, la justification de l'érouve et de l'espace privé est liée à la conception de l'espace domestique comme ressemblant à une maison. Et une maison, pour les commentateurs de la loi, pourrait n'être faite que de portes. Et ces portes-là sont toutes ouvertes, donc on possède tout un seuil évidemment, mais sont aussi toutes ouvertes. Donc l'érouve est une succession de portes ouvertes qui pourtant constituent une frontière.